feel that love is dead. I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love and affection. Bonsoir à tous, auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 1er mars, il est 20h. Vous êtes bien sur Radio Judaïka 90.2 FM et sur la radio, sur le site internet de la radio, radiojudaïka.be. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois. Et comme tous les lundis soirs, on joue la prolongation.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Bouch, vous êtes un salaud.
Ravi de vous retrouver, comme je vous le disais, on a une belle actualité, hein, une belle émission qui se profile ce soir. Auprès de moi ce soir, j'ai encore une fois la crème de la crème. Hein. Qui d'autre que... On va savoir ce soir, on saura un peu plus tard, s'il est rouge de colère, s'il est rouge de honte ou simplement rouge pour le meilleur et pour le pire. Hein.
Certainement pas de honte, mais de colère, vraiment.
De colère.
Je suis très fâché.
Aïe. Bon, on a un Steve Gris très fâché ce soir. Bon. On le laisse un peu, qui nous donne du grand football.
On aimerait bien qu'il nous donne un peu de grand football, même du football tout court.
On va en reparler, bien sûr. Alors lui... Il aurait signé pour que le match ne dure que 23 minutes, il nous l'a dit. Hein, on connaît les problèmes que rencontre souvent son équipe sur la durée. Mais finalement, il est bien content que le match soit allé jusqu'au bout des 90 minutes. Bonsoir Henri Daniel.
Cher, les lundis se ressemblent pas. Hein.
C'est ça, hein, ça se ressemble vraiment pas. C'est la beauté du sport. Enfin, tout. Bon, pour lui, pour son club, l'important cette semaine, ça n'était certainement pas le match d'hier soir, l'Olympico, le partage 1-1 avec l'Olympique Lyonnais. Non, pour lui, la saison commence peut-être seulement demain, avec l'arrivée d'un nouveau loco à la tête de l'OM. On va en parler aussi. Bonsoir, Blaise van der Linden.
Bonsoir à tous, et on va essayer d'être meilleur que les 22 acteurs du Classico d'hier après-midi.
Les spectateurs mieux que son ami.
Alors, ce soir, on a un très beau programme, comme tous les soirs, mais ce soir particulièrement. Dans quelques instants, nous entretiendrons avec Marcel Javot, l'ancien arbitre belge, à qui on a plein de questions à poser. On est ravis de pouvoir parler avec lui. Puis on débriefera, bien sûr, le Classico et la Pro League. On dira malheureusement au revoir à la Coupe d'Europe pour les clubs belges, puisque l'aventure est terminée pour les deux derniers représentants. Et puis on fera un tour d'Europe pour s'intéresser un peu à l'actualité footballistique du week-end. C'est parti, hein, c'est le coup d'envoi. Sans plus attendre, on va démarrer cette émission avec notre grand entretien. Bonsoir Marcel Javot, est-ce que vous nous entendez ?
Bonsoir à toutes et à tous, je vous entends presque bien.
Bon.
La ligne n'est pas extraordinaire, mais enfin je comprends quand même un peu près ce que vous racontez.
C'est parfait.
On va essayer de parler clairement. C'est Henri qui est au micro. J'ai une question avant qu'on commence. C'est très important parce que les dernières nouvelles qu'on avait eues de vous étaient assez inquiétantes. Je voudrais savoir comment vous allez.
Ben, nous allons très bien, je vous remercie. Après une période relativement difficile, c'est quand même maintenant derrière nous depuis quelques mois et on se porte relativement bien. On ne doit pas se plaindre avec tout ce qu'on voit. Nous allons bien.
Ça commence. C'est déjà une très bonne nouvelle. On est très heureux. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes un ancien arbitre, vous êtes probablement l'arbitre le plus médiatique, en tout cas en région francophone, parce que vous étiez ancien chroniqueur à la Tribune, donc l'émission de la RTBF, et de Studio, je pense que ça a commencé par Studio, c'est ça ?
Studio 1, oui, puis la Tribune, Studio la Tribune, puis la Tribune pour terminer.
Combien d'années ?
C'est 13 années, je crois, 13 saisons complètes. J'ai recommencé chez eux... J'ai bonne mémoire, octobre, novembre 2007. Voilà. J'avais annoncé mon départ en même temps que Michel Lecomte et le Covid a tout bouleversé. Départ s'est effectué, mais dans des conditions un peu spéciales.
Est-ce qu'on a dû beaucoup vous pousser? Parce que je suppose qu'ils sont venus vous chercher parce que vous aviez un franc-parler, j'imagine.
Bon, probablement. C'est à eux qu'il faudrait poser la question. Hein. Mais c'est vrai que j'avais le contact facile avec les journalistes. Ça a commencé à l'époque de 5 et soirée en 2002, lorsque la RTBF avait organisé, en même temps que le journal de RTL, une émission qui s'appelait 5 et soirée. Et qui abordait l'arbitrage, la Coupe du Monde en Corée, Japon-Corée. Et j'avais passé là un mois relativement sympathique, en direct tous les jours de 19 à 20 heures, en compagnie de toute l'équipe de Marc Delire et Benjamin Dessenin, qui était jeune stagiaire à l'époque. Et ça a permis de créer des liens d'amitié relativement forts entre certains journalistes et moi-même. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, ils sont venus me rechercher pour parler de l'arbitrage dans cette émission hebdomadaire.
C'est votre signature, c'est un même avec les joueurs, vous aviez un contact, vous parlez beaucoup sur le terrain pendant l'arbitrage.
Oui, j'ai toujours estimé qu'il était parfois plus important de discuter que de coller une carte jaune.
Alors,
qu'il fallait bien sûr donner quand c'était nécessaire, hein, mais parfois le dialogue permettait d'éviter d'aller plus loin et d'être obligé de donner une carte rouge.
Alors la communication, c'est vraiment votre force. Je vais donner une petite anecdote, je vous en ai parlé. Avant de vous inviter, j'ai tenté d'avoir au téléphone un arbitre en activité. Donc j'ai contacté la fédération qui m'a très poliment, mais très clairement repoussé. Est-ce que c'est révélateur de ce qui se passe à la fédération ?
Ben, je ne sais pas ce qui se passe exactement, parce que je ne suis plus dans aucun comité. J'ai pris mes distances un peu avec le milieu. Mais je trouve déplorable qu'on ne privilégie pas le dialogue. Ne pas répondre à certaines questions, c'est pousser l'interlocuteur à s'imaginer tout et n'importe quoi. Et je reste persuadé que le dialogue doit primer. Dire aux arbitres « Stop les gars », comme il le disait déjà à l'époque où j'arbitrais. Moi, j'ai quand même 20 ans que j'ai arrêté. Et quand j'arbitrais, au début que j'étais en Division 1 en 1990, je me souviens très bien qu'on disait « Pas de déclaration à la presse, s'il vous plaît, ne répondez pas aux journalistes. »
Alors que certains...
Pourquoi ?
Ça rapproche.
Pourquoi ? Je n'en sais rien. J'ai transgressé assez souvent. Ça m'a d'ailleurs causé pas mal de tort dans ma carrière, hein, parce que j'étais un peu connu là à la fédération comme le mouton noir, l'empêcheur de tourner en rond et l'emmerdeur qui faisait le contraire de ce qu'on lui demandait de faire. Quoi, donc,
Mais moi
je ne concevais pas de fermer la porte de mon vestiaire au nez des journalistes qui étaient très intéressés de savoir pourquoi j'avais pris telle ou telle décision.
Après votre carrière...
Continuer à agir de la sorte, mais surtout à l'heure actuelle, tout a quand même... évoluer dans un certain sens qui fait que la presse joue un rôle quand même prépondérant.
Ben, on essaie de jouer un rôle pédagogique, c'est ce que j'ai essayé de leur expliquer pour des nouvelles, un nouveau fonctionnement de l'arbitrage, surtout avec l'arrivée du VAR.
Oui, ben oui. Mais le VAR, c'est un bel outil. Hein, si vous voulez qu'on en parle un peu, on peut en parler, il n'y a pas de problème.
Allons-y.
Moi, quand j'arbitrais, j'étais contre, on parlait déjà...
C'était ma question, oui.
D'un futur proche qui permettrait d'utiliser la vidéo, j'étais contre, parce que j'estime que l'erreur que commet un arbitre fait partie du spectacle, tout comme le joueur qui fait une mauvaise passe ou rate une interception, donc je ne vois pas pourquoi on devrait tout corriger comme ça du jour au lendemain. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Je trouve que quand c'est bien utilisé, c'est un excellent outil qui a déjà quand même prouvé à plusieurs reprises, même cette saison, que sans le VAR, il y aurait eu des résultats qui auraient été faussés. Donc, même si ça ne fonctionne pas bien à 100%, moi je trouve qu'il y a quand même 90-92% de très bonnes décisions qui sont prises. Bien,
j'ai mon collègue Steve qui a une question pour vous.
Oui, bonjour Monsieur Javot, Steve Gris. Très heureux d'abord de vous entendre sur les ondes. Moi, j'ai été baigné quand j'étais petit de vos exploits, parce que ce sont des exploits en tant qu'arbitre sur le terrain. Vous étiez vraiment, une personnalité attachante, très connue, et en tout cas qu'on aimait bien voir lorsqu'on regardait les matchs. On a pris aussi beaucoup de plaisir à vous voir dans votre seconde vie comme consultant. Et encore plus heureux maintenant que vous n'êtes plus consultant, que vous venez nous dire un petit bonjour à la radio. Maintenant qu'on parle du VAR, moi j'ai un peu la même trajectoire que vous, très modestement. C'est que lorsqu'on parlait beaucoup de Platini, parlait il y a des années de tout ce qui était arbitrage vidéo, j'étais très sceptique. Et puis par la suite, je dois reconnaître que maintenant je suis devenu un chaud partisan du VAR. Et vous venez de dire qu'il y a 92-95% des décisions qui sont plutôt bonnes. Quels sont pour vous les points dans lesquels on pourrait améliorer ce VAR? Ou alors on peut prendre la question à l'inverse. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour le moment avec le VAR et qu'on pourrait améliorer?
Mais je crois qu'en globalement, on peut dire que ça fonctionne relativement bien. Le grand problème pour moi, c'est d'entendre certains commentaires de supporters et ou même parfois de journalistes qui ignorent totalement comment doit fonctionner le VAR. C'est ça le problème. Il y a un protocole qui a été établi, qui est édité dans les lois du jeu, et je suis persuadé qu'une grande majorité des journalistes n'ont jamais pris la peine d'aller le lire.
Mais
ce qui est inquiétant, parce que je vois encore hier, on peut parler par exemple de la faute de Lorenz après 2 minutes de jeu, qui est quand même costaude. Rouge aurait peut-être pu être donné. Lui estime qu'il considère ce geste comme n'étant pas une agression caractérisée. Il donne jaune. Je comprends très bien sa décision et je la défends. Si tant que je peux défendre, je défends. Et par contre, beaucoup de supporters, aujourd'hui j'ai vu sur les réseaux sociaux, crient au scandale, bon, le VAR était absent, le VAR n'est pas intervenu, mais le VAR n'a pas à intervenir. Le VAR intervient s'il considère, dans les 4 cas bien définis, qui sont prévus par le règlement, s'il considère que l'arbitre a commis une erreur manifeste. C'est quoi une erreur manifeste? C'est oublier de donner un carton rouge pour un coup volontaire, par exemple. C'est oublier de donner au jeu
sur un but
qui est indiscutable. Maintenant, on a un outil qui permet de montrer avec les images que l'arbitre s'est trompé et qu'il peut éventuellement se corriger. Mais pour ça, il faut que ce soit dans les règles prescrites par les lois du jeu. Et là, beaucoup de personnes ignorent totalement ce que disent les lois du jeu à ce niveau. Et ça, c'est dommage. Et j'ai insisté des dizaines de fois. Bah, je connais quelques journalistes qui connaissent très bien les lois du jeu. Hein. Le plus fort pour moi, c'est Benjamin de Seninck. Vous me direz avec un peu d'humour que c'est parce qu'il m'a fréquenté il est très, très, très fort au niveau des lois du jeu.
Qu'est-ce qui se passait sous la table? Vous le pinciez quand il faisait une erreur?
Non, même pas, non. Je n'aurais pas osé.
Et il y a deux éléments qui, à mon sens, doivent être un peu réfléchis avec le VAR, et je ne sais pas si vous partagez cela. La première, tout d'abord, c'est qu'il y a dans le jeu toujours un degré d'interprétation. La question du penalty, par exemple, on peut retourner ça dans tous les sens. L'arbitre, le VAR, les journalistes, le public, les supporters, les membres du staff, on peut tous avoir une interprétation.
Mais l'interprétation, c'est la beauté du spectacle. Hein. Revenons sur la phrase de Lorenz hier, hein, tout le monde, puisque c'est celle dont on parle le plus dans la presse ce lundi matin. Selon que vous soyez standardman ou intellectuel, votre avis est totalement nuancé et différent.
Moi, je trouve que l'arbitre a bien sifflé.
Pardon?
Moi, je suis supporter d'André, je trouve que c'était très bien ce qu'il a fait.
Moi, je trouvais, personnellement, je ne suis pas supporter. Hein, j'ai du mal à comprendre les supporters parfois même.
Non, mais moi, je joue un rôle.
C'est ma carrière d'arbitre qui veut ça, probablement. Hein. On essaye quand même d'être objectif et de faire preuve d'une certaine neutralité. Mais si l'interlectoire regarde la faute, pour moi, c'est un pied écrasé qui mérite une jaune indiscutablement. Et sortir la jaune à 2e minute, c'est déjà costaud. Mais il devait le faire. rouge. Si certains l'auraient donné, je pense qu'on aurait pu expliquer que c'était plausible comme décision. Hein. C'est vraiment la situation type d'une décision qui peut changer l'attribution et la couleur d'une carte suivant la couleur de votre écharpe. Vous comprenez bien ce que je veux dire.
Oui, bien sûr. Et alors le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'était l'amélioration selon vous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le délai entre le moment où il y a une phase qui doit être examinée par le VAR et une fois que la décision est confirmée ou infirmée? On se rend compte que dans certains matchs...
Ça prend parfois beaucoup de temps.
Et comment peut-on faire?
Parce qu'ils doivent utiliser un logiciel qui n'est pas très rapide et qu'il faut tracer une ligne, il ne faut pas se tromper. Parce qu'à 100 centimètres près... Là, c'est une des rares décisions qui n'implique pas l'appréciation de l'arbitre. Pour eux, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas.
Oui, comme est-ce que le ballon a franchi la ligne, même
d'apprécier et de penser que...
Mais c'est vrai qu'on se rend compte des fois, par exemple, lorsqu'on a une situation de pénalty, le VAR intervient, ça prend quelques minutes, et puis l'arbitre va voir l'écran, puis l'arbitre revient. Ça peut des fois être très, très, très long. Est-ce que vous pensez qu'on aurait des moyens d'amélioration de ce système pour ne pas casser et hacher le match à ce point-là?
Je n'en connais pas, en tout cas. Mais je trouve, c'est vrai que parfois c'est long, quand ça prend 2-3 minutes, c'est relativement long, mais je trouve que ça vaut la peine de prendre le temps... pour prendre la bonne décision. Hein. Si ça vous demande 3 minutes pour modifier une décision et la rendre juste, tout simplement juste et correcte, ça vaut la peine pour moi. Mais il y a d'autres points qu'on peut naturellement améliorer aussi. Hein. Moi, j'aimerais bien à l'avenir, par exemple, qu'on puisse conseiller aussi à l'arbitre qu'il s'est planté sur, une simple rentrée de touche ou un coup de coin. Vous donnez coup de coin, par exemple. Un arbitre siffle, donne coup de coin, qui n'existe pas. Les images prouvent qu'il n'y en a pas. Le VAR ne peut pas lui dire « tu étais planté, c'est pas coup de coin ». On laisse botter le coup de coin, on marque un but sur ce coup de coin. C'est une décision quand même qui a influencé directement le résultat du match et dans laquelle le VAR ne peut pas intervenir. Et je trouve ça dommage. Pour moi, c'est un des points des plus importants prochainement à apporter... en tant que modification.
Vous parliez tout à l'heure de l'interprétation et on se réjouit du fait que les arbitres aient leur interprétation d'une action. Je voudrais revenir sur la faute dont vous parliez. Est-ce que le fait que ce soit à la deuxième minute peut influer sur la décision que va prendre l'arbitre? Bon, là, en l'occurrence, on est assez d'accord sur le fait que la bonne décision, c'était sans doute le jaune. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous est arrivé aussi de vous dire, si je mets le rouge maintenant... tout de suite, le match va être... Je vais pourrir le match, pas dans le sens que vous allez... Enfin, en tout cas, ça risque de dégénérer ou en tout cas, on va gâcher quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça peut entrer en ligne de compte?
Personnellement, je pense que non.
D'accord.
D'ailleurs, si vous voyez la réaction de l'arbitre, il sort la carte jaune directement.
Oui.
Je ne dis pas qu'il n'a pas pris le temps de réfléchir parce que c'est instinctif. La réaction est instantanée. Vous avez directement le réflexe d'aller à la bonne poche. Si vous êtes bien organisé, vous avez votre carte rouge qui se trouve sur votre sein gauche ou droit et la carte jaune dans la poche de votre short, ce qui vous permet de ne pas vous tromper.
Ça vous est arrivé de vous tromper?
Ça m'est arrivé à une époque où j'avais carte jaune, carte rouge et mon petit carnet dans la même poche sur mon sein gauche. Et il pleuvait relativement fort, et à un moment donné, je crois donner la carte jaune au joueur, je brandis ce qui est jaune, vers moi c'est jaune, mais la rouge est collée juste sur l'autre face, et je vois le gars qui fait demi-tour et qui rentre au vestiaire, il fout le camp, je dis, où est-ce que tu vas? Ben je m'en vais, tu m'as donné la rouge. Ben je dis non, hein, c'est la jaune que je t'ai donné, puis je me suis rendu compte que ma carte était collée. Mais...
Cocasse.
Comique. Et puis épisode comique naturellement.
On voulait vous interroger sur l'arbitrage belge en général. Ici, on loue souvent le football belge qui est au top hein, en Europe et dans le monde. Et on a l'impression que le niveau de l'arbitrage belge ne suit pas forcément le niveau des joueurs. On n'a pas vu depuis longtemps des arbitres belges arbitrer de grands matchs, de grandes compétitions. Est-ce que vous pensez que l'arbitrage belge est moins performant que d'autres, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons structurelles à ça ?
Bien sûr que non. Maintenant, je vais d'abord commencer par vous dire que vos meilleurs joueurs belges sont à l'étranger. Mm-hmm. Donc j'avais du mal de les suivre ici en Belgique. Hein.
C'est vrai.
Si vous voyez ce que je veux dire.
C'est vrai.
La crème est quand même partie à l'étranger, en général. Enfin bref, c'est une parenthèse. Il faut vous dire quand même que...
Justement, pour rebondir sur le fait qu'ils sont partis à l'étranger, il y a un moment, je ne sais plus si ça se fait encore, les arbitres arbitraient parfois aux Pays-Bas ou au Luxembourg. Est-ce que vous pensez que ce sont des pistes à privilégier, peut-être pour, je ne dis pas pour augmenter le niveau des arbitres belges, mais pour, niveler en tout cas, et harmoniser pardon, les arbitrages en Europe? Parce que souvent, on dit... que selon le championnat, l'arbitre est différent, et on prend souvent l'exemple de l'Angleterre où on dit « Ah ça ne se siffle pas en Angleterre ». Est-ce que vous pensez que des expériences comme
pourtant,
ça...
Pourtant, les lois du jeu sont les mêmes
sont
en
les mêmes.
Que chez nous. Hein.
Ouais.
Et je ne suis pas super convaincu que l'arbitrage britannique soit nettement meilleur que le nôtre. Hein. Il suffit de regarder régulièrement les matchs... de la Première Ligue pour se rendre compte que, à part un ou deux arbitres qui sont au top européen maintenant, ils n'ont quand même pas grand-chose au niveau de la Première Ligue. Mais ça, c'est un avis tout à fait personnel. Par contre, chez nous, on a quand même maintenant quelques jeunes qui fonctionnent pas mal. On a Lorenz Visser qui vient d'aller arbitrer la semaine dernière à Manchester United, ce qui n'est quand même pas mal. Comme désignation, ouais. Et il vient en plus d'être désigné pour l'Euro des U21, des espoirs, Euro Espoir. Donc c'est une belle désignation aussi. Il fait partie de la dizaine d'arbitres retenus pour ce tournoi. Il a la chance, en plus, tout en participant à ce tournoi, à cet Euro, de ne pas avoir l'équipe nationale belge dans les pieds, si je peux m'exprimer mm-hmm. ainsi. Ça veut dire que n'ayant pas son équipe nationale concernée par le tournoi, il risque, s'il fait un bon début de tournoi, il risque éventuellement de faire un quart, ou voire une demi-finale, ou peut-être
la finale,
sait-on jamais. Il faut voir, tout dépend qui... Disons qu'il a plus de chances d'aller au bout, hein, ouais. De progresser dans le tournoi à partir du moment où son équipe nationale ne participe pas ou est éliminée en cours de tournoi. Monsieur... Et c'est un garçon qui a énormément de qualité. Moi, je trouve qu'on a quelques arbitres qui sont très bien. La politique pratiquée par la fédération, je ne suis pas toujours d'accord avec, mais enfin, là où il faudrait une soirée pour en parler.
Vous reviendrez.
Hein, quand on sait actuellement qu'il n'y a plus de membres de la CCA, ce qui était la Commission centrale des arbitres, et qu'on a pour la Fédération belge de football un Français, un Anglais et une dame française aussi qui s'occupent du top management de l'arbitrage.
Bon, je pose des questions.
C'est quand même bizarre. Ça coûte fort cher et ça n'apporte pas plus que les excellents membres de la CCA que nous étions à une certaine époque.
Que vous avez quitté. Hein.
Voilà.
Vous aviez quitté.
Pardon
c'est vous qui aviez quitté la CCA de votre initiative, je pense.
J'ai quitté, oui. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer. M. Jourquin, qui était président à l'époque, était venu me demander si j'accepterais de faire partie de la commission de formation, donc m'occuper de la formation des jeunes arbitres. J'ai passé la 6 saisons extraordinaires, mais en 2007, je me suis pris le chou avec Robert Gerussen, qui était le président suivant, et j'ai dit, si c'est pour faire le clown comme ça, ce sera sans moi. Et je ne regrette pas d'être parti. Je n'ai jamais regretté mes décisions tout au long de ma carrière. J'ai arrêté d'arbitrer quand j'ai décidé d'arrêter. Et la même chose à la CCA, la même chose quand j'ai été président du comité provincial de Luxembourg ici. Ça a toujours été un libre choix. J'ai pas attendu qu'on me foute dehors pour partir. La même chose à la tribune d'ailleurs, vous voyez. J'aurais bien aimé que je reste encore au moins un an ou deux, mais je trouvais que en arrivant à l'âge de la retraite, que c'est bien de se retirer.
C'est vous qui décidez d'arrêter. D'ailleurs, vous avez été le premier arbitre belge à arrêter un match à cause des supporters.
Oui. Oui, c'était en
Anderlecht, d'ailleurs.
En 2001, Anderlecht GBA. Un triste souvenir, malheureusement.
Triste pour le football, évidemment.
Triste pour le football, certainement, mais ça n'a rien changé parce que la fédération a eu à l'époque l'occasion de le marquer le coup, de le rentrer dans l'air. Et je crois que le GBA en appel n'a même pas eu 500 euros d'amende. Donc, alors qu'ils avaient un public, et ils ont toujours d'ailleurs,
oui.
Le Big Scott, un noyau dur.
Oui, très dur.
Comparé aux couleurs d'affiche du Vlaams Blok, hein. Les crânes rasés en combat de choses, c'est pas tout ce qui est plus sympathique pour le sport. Mais enfin, c'est comme ça. Hein. Et quand vous avez une fédération qui, alors qu'elle a l'occasion de marquer le coup, ne fait rien, ou presque rien, bon. Je trouve ça déplorable.
On est d'accord avec vous, tout à fait, vous aussi. Monsieur Javoux, on va clôturer là. Je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Votre avis est toujours...
C'est très gentil, vous me libérez juste pour que je puisse suivre la tribune, donc c'est magnifique.
Ne dites pas ça à l'antenne. je voulais juste terminer aussi en rendant hommage à tous les arbitres bénévoles, sans qu'il n'y aurait pas de foot les dimanches matins. Et je sais que ça vous tient à cœur, le foot amateur.
Bien évidemment, je suis d'ailleurs président d'honneur d'un club de football de P3 à Poissy du Luxembourg.
Qui fait une bonne saison?
Pardon?
Comment va la saison au P3? C'est une catastrophe, on a arrêté tout.
C'est une catastrophe, hein. Ils ont joué 3 ou 4 rencontres, je crois, en septembre et octobre. Et puis depuis lors, tout est terminé. Mais plus d'entraînement, c'est catastrophique. Il y a, à mon avis, malheureusement, beaucoup de petits clubs qui vont disparaître.
Ben oui, ben ouais. Enfin, en tout cas, à travers vous, je voudrais rendre hommage aux arbitres, parce que je sais qu'en provincial, c'est un vrai sacerdoce.
Ah, c'est un sacerdoce, ça, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde passe par là. Hein. Le moindre arbitre, qui est au sommet, a commencé par un maître de jeunes en province. Hein.
À 9h30 sous la neige.
C'est un long chemin qui n'est pas toujours très tranquille, mais c'est une école de vie extraordinaire. J'encourage les jeunes à essayer de s'engager là-dedans, ça vaut la peine.
Il y avait un slogan qui disait « On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion ».
Voilà, exactement, vous avez tout compris.
En tout cas, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé.
Avec plaisir.
Et puis, j'espère à une prochaine. On a plein de questions encore, mais on garde ça pour une prochaine fois.
Et puis, si l'émission que vous comptiez regarder finalement ne marche pas, vous pouvez toujours rester sur notre antenne et nous écouter.
Bien évidemment. Je vais d'ailleurs... le faire directement, comme ça j'aurai une oreille sur Judaïka et une oreille sur l'XTBF.
Un grand merci, M. Javoux.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne soirée à vous tous.
Merci. Au revoir.
Est-ce que, avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez me rappeler les faits de ce Anderlecht GBA? Parce que
Il s'est fait insulter. Donc l'arbitre a été insulté. Il y avait des nouvelles directives. C'est le premier à l'avoir appliqué. C'est qu'effectivement, s'il y avait des insultes ou des cris racistes ou... Il faut arrêter le match. Et c'est le premier en Europe à l'avoir fait. Okay.
Oui,
mais la sanction n'a pas suivi.
Non. Écoutez, c'était vraiment sympa d'avoir Monsieur Javoux avec nous. Il a été assez loquace et plutôt didactique. Et c'est vrai qu'il faut bien que les gens comprennent que ça reste une question d'interprétation. L'arbitrage, et effectivement le VAR est là pour corriger les trop grosses fautes, mais l'arbitre reste le maître.
Mais c'est toujours, moi je suis toujours étonné de voir que les gens ont tellement de patience, de mansuétude face à une erreur d'un joueur, mais si peu à l'égard d'une erreur de l'arbitre.
Ouais, ouais.
C'était incroyable. Enfin, voilà. Si on en revient sur cette faute de Lorenz, moi, ayant un maillot différent de celui d'Henri, j'ai tendance naturelle à dire que c'était une rouge, mais il n'est pas choquant. Il m'a fallu 3 ralentis pour que je me dise, tiens, peut-être que ça aurait peut-être été plus une rouge. Mais il n'y a pas de scandale là-dedans. L'arbitre, ça va extrêmement vite. Il y a un degré d'interprétation. Les règles ne sont pas toujours...
Il y a un règlement, il est dans le cadre du règlement.
Voilà, donc j'ai l'impression qu'on doit être... On doit juste faire un tout petit peu preuve de mansuétude, comme on fait preuve par rapport aux joueurs. Et ça,
c'est l'histoire du foot, Steve. C'est critiquer l'arbitre. Enfin, c'est se cacher derrière l'arbitre dès que ça fonctionne pas. Quoi.
C'est vrai, mais des fois ça va très loin.
Et les entraîneurs sont les premiers à le faire.
Moi, je me suis toujours demandé, parce que M. Javoux disait, oui, il faut finalement motiver les jeunes à faire ça, mais comment motiver les jeunes en sachant que vous allez vous dépenser, vous allez courir autant que les joueurs. Vous allez faire entre 10 et 15 kilomètres. Donc vous allez bien courir pendant le match, et au mieux, vous faites une bonne prestation et personne ne vous remarque. Au pire, et ça arrive souvent, vous faites une ou deux erreurs et on vous tombe dessus. Mmh. C'est difficile à motiver.
Et un jour, j'avais parlé à un arbitre en provincial, moi, et on avait fait un match, et effectivement, il avait dû arrêter le match parce qu'il s'était fait frapper par un joueur, en fait. Wow. Et donc, je lui avais dit, mais enfin, qu'est-ce qui te pousse à continuer à faire ça, quoi? Et il me disait, bah, j'aime bien ça et je veux en faire mon métier, et donc ça le poussait à le faire, mais il est quand même, le gars venait presque bénévolement nous arbitrer, et il s'est fait frapper, enfin, c'est quand même.
C'est ouais. Dingue. Ça, c'est dingue.
Bon, on n'en est pas arrivé là hier soir, hier après-midi, mais on va quand même, on va commencer notre débrief du classico, le plus gros choc hein, du football belge. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Le Standard recevait Anderlecht à Sclessin. La victoire, tout le monde le sait maintenant, il n'y a plus de suspense.
Mais c'est bien de le rappeler.
Voilà, c'est 1-3 pour Anderlecht. Pourtant, le match débute bien pour les Standardmen. Ils semblent avoir la main mise sur le match. Quelques frappes au-dessus de Joao Klaus qui se distingue, Bastien aussi. Mais arrive le premier tournant du match, peut-être le vrai tournant du match. On est à la 22e minute et sur une rentrée en touche, il y a une grosse erreur de la défense du Standard, une triple erreur, Steve.
Non, le vrai tournant du match, c'est l'erreur grossière de l'arbitre, à la deuxième minute.
Voilà. Bon, celle-là est mise à part.
Sans ça, évidemment, le match aurait été totalement différent.
Évidemment. Non, et donc il y a une erreur sur une entrée en touche et Amoudzou qui se retrouve seul face à trois défenseurs, c'est lui qui réussit à récupérer le ballon après qu'il y ait un télescopage entre quelques joueurs et malgré tout, il a de la réussite, mais il frappe son ballon dans un angle très très fermé
du gauche
et bon, c'est pour ça que je dis il a vraiment 100% de réussite, il devrait pas avoir le ballon.
Non, mais c'est magnifique hein,
ouais, ouais.
De le mettre dans un angle ouais, en direct, moi jamais je pensais qu'il la mettait.
Ouais.
Vraiment un angle totalement impossible.
Henri non plus. Ligne, ouais. Oui, il est quasiment sur la ligne.
Mais enfin, moi j'estime que ce but il est pour Bocasi quand même. Mais c'est pas possible quoi. On a l'impression qu'il est complètement perdu et qu'il sait pas ce qu'il fait. Quoi.
Tellement mal positionné.
Ouais, sur la rentrée en touche, il est mal positionné. Après, il se retourne comme un pré-minime et la balle lui arrive. Bon, bah, ça par contre, c'est un peu un concours de circonstances, mais. Tous ces placements et tous ces déplacements, c'est nul.
Amoudzou a l'habitude, hein, il tire sur le poteau, ça va sur le deuxième gardien.
Non, mais ça fait pas mal de matchs que la défense du Standard est extrêmement approximative, malgré le fait qu'individuellement, on se dit que ce ne sont pas des mauvais joueurs, mais il y a énormément de goals qui sont sur la pomme d'erreurs individuelles. Et là, c'était gag. Hein.
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est gag. C'est le mot parfait.
Est-ce que c'est pour ça que Duceppe ne jouait pas? C'est une sanction par rapport à la performance.
Je crois que c'est ce qu'a dit Mbaye, sans le nommer particulièrement, mais il a dit oui, à partir de maintenant, enfin peut-être déjà à partir de la semaine dernière, mais je laisse plus passer les performances qui ont été trop mauvaises. Donc c'est tombé sur lui hier. On reprend la première période du match. Elle est plutôt dominée par le Standard, même si Anderlecht semblait contrôler, c'est-à-dire il y a eu quand même pas mal d'occasions, des têtes beaucoup au-dessus. Quand j'ai fait ma petite fiche, quand je parle d'Enmecha, d'habitude j'écris beaucoup les mots à côté, là c'était beaucoup au-dessus.
Non mais il faut se rappeler, parce que je vois déjà mon contradicteur de gauche très très fier, mais on va se je vais évidemment un peu le tenser, mais on faut pas oublier qu'Anderlecht sort de 180 minutes sans faire un tir cadré hein. Donc là ils ont un peu fanfaronné, je pense à juste titre parce qu'ils viennent, voilà, c'est un match où on va à l'extérieur en classico gagner en plus un match à 6 points qui est vraiment très important, mais Anderlecht revient ce goal, c'est le premier tir cadré qu'ils ont en 3 matchs. Hein.
Et ce qui est amusant, c'est de voir la réaction de Vincent Kompany, parce que bien souvent, quand une équipe marque...
Il a gagné la Champions League.
Oui, oui, et puis il se marre, il se retourne vers ses adjoints, il tape dans les mains avec un grand sourire en se disant c'est tombé du ciel. Quoi. D'habitude, quand les entraîneurs voient leurs joueurs marquer un
but... Non, mais c'est bien, parce qu'ils ont besoin d'un déclic comme ça. On sait que ce championnat peut partir... Voilà, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'état de forme. C'est vraiment, ça va se baser sur, tout le monde est dans un mouchoir de poche, ça va se baser sur la forme du moment. Donc il y a besoin de ce déclic psychologique. Et ce déclic psychologique, aller gagner au Standard, à 5-6 matchs de la fin, alors que tout le monde est dans un mouchoir de poche, et il a raison de tabler sur le mental de l'équipe, parce que c'est peut-être ça qui va hold-up ou non, mais qui va leur permettre d'arriver dans le top 4. Il a raison de taper sur le clou de ce clou-là.
Le standard n'est plus dans un mouchoir, maintenant ils sont sur une nappe. Hein.
Oui, oui, non, mais je pense qu'on n'en parle même plus.
Mais c'est sûr qu'il y a de l'extra-sportif dans les conséquences. À part les points, psychologiquement, c'est des victoires qui sont importantes parce qu'il y a tout l'aura qui est autour, avant, pendant, après, d'un classico. En connaissant la situation pour la première fois, les deux équipes étaient en difficulté. Dans l'histoire, il y a déjà eu des cas où c'est l'une ou l'autre qui est en difficulté.
Souvent plus l'une que l'autre. Hein.
Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, on se souvient de certains play-offs.
Oui.
Donc effectivement, et là les deux étaient en difficulté, les deux avaient besoin, parce que là on en était à ce niveau-là, on est à 6 matchs de la fin. Donc c'était une victoire, c'est même un nul aurait été une catastrophe pour les deux.
Pour les deux, tout à fait.
Et là il fallait une victoire.
Alors on arrive à la mi-temps à 0-1, puis la deuxième période démarre, et quand on parlait de réussite tout à l'heure pour Amoudzou, y en a un qui n'a pas eu de réussite, ça aurait été tout aussi chanceux, c'est Joao Klaus, puisqu'on est à la 55e minute, toute la presse a repris, a dit l'erreur hebdomadaire de Wallen Reuter, puisqu'il fait effectivement encore une erreur, une balle qui lui est... C'est peut-être encore la déformation du process de l'idée de Vincent. On relance court, très bien, mais il faut peut-être relancer à un moment. Et donc, il garde le ballon très longtemps dans les pieds. Puis quand il décide à dégager, Joao Klaus est devant lui, la balle lui rebondit dessus. Et malheureusement, parce que là, il n'a vraiment pas de réussite, le ballon passe juste à côté.
Un autre jour, elle serait rentrée, je pense. Que...
C'est ça, et Amoudzou, la sienne ne serait pas rentrée. C'est
ouais, mais face, bien, oui, mais bon. Oui. Je suis un peu en colère et je pense qu'il faut être juste, mais peut-être dur. Si ce goal-là était rentré, ok, ça aurait été chanceux et on aurait tous été extrêmement contents. Mais quand on voit la rentrée du standard en seconde mi-temps, et j'ai encore regardé le résumé ce midi pour me rafraîchir un peu la mémoire, même s'il n'y a rien de plus désagréable.
Tu aimes te faire du mal.
Oui, j'aime me flageller un lundi matin. Mais non, il n'y a rien de plus désagréable, évidemment. Mais pour me rappeler un petit peu, pour l'émission, ce qui s'est passé, quand on regarde les attaques de la seconde mi-temps, c'est toutes des choses qui partent, des tirs qui partent dans la tribune. Il y avait si ce goal est marqué, c'était une bénédiction chanceuse. Parce que clairement, on n'a pas l'impression qu'ils font un pressing où ils sont de près ou de loin proches de marquer.
Anderlecht qui se met dedans tout seul, quoi. Wallen Reuter, il est.
Mais ça devient quand même problématique parce qu'il les enchaîne week-end après week-end, ce genre de petites erreurs.
Ces défenseurs qui ont fait des mésententes.
Oui. Non, mais là, elle est pour lui. Enfin, le week-end dernier, elle est pour lui. Là, elle est pour lui. Enfin, ça commence vraiment à.
Il est temps que
Van Kronbrugger revienne.
Oui,
il n'est pas là. On ne va pas s'attarder sur une autre décision qui a été aussi discutée, débattue. C'est une deuxième jaune pour Gavory qui prend une première jaune à la 60e, 62e. Et puis quelques minutes après, il est aussi à la limite de prendre un deuxième jaune.
S'il prend une deuxième jaune, il n'y a pas de scandale.
Hein. Non, mais moi je trouve, franchement, pour un pied comme ça, c'est jaune. Quoi. À la limite, pas rouge direct, mais c'est quand même carton jaune.
Moi j'ai l'impression qu'il n'a pas osé prendre sa responsabilité.
Il n'a pas donné le rouge au début, il n'a pas donné le rouge là, tu penses ?
Peut-être plus parce que le rouge là, honnêtement, on voit que c'est une grosse faute. Et c'est pour ça qu'il accepte, il met la jaune à la deuxième alors qu'il pourrait dire dernier avertissement. Il pourrait, le match débute, il met une jaune parce que c'est vraiment une faute assez grave au début de match, mais je ne suis pas sûr qu'il ait vu que c'était si bas et si dangereux et donc si proche de la rouge. Par contre, la deuxième de Gavory, ne pas voir que c'est une jaune, ouais, ça, il fallait quand même le faire. Hein.
Alors dans le règlement, j'ai comme noté ça, l'arbitre principal n'a pas le droit de choisir lui-même d'aller voir la vidéo.
Oui.
Il y a uniquement sur intervention du VAR, donc de la camionnette, qu'il peut aller voir la vidéo.
C'est ça. Ça signifie donc qu'il doit prendre ses responsabilités et il ne peut pas dire je ne sais pas, je vais voir.
Et comme disait M. Javot, c'est parfois instinctif. Quoi. Donc il y a de la faute, il sort ou il ne sort pas le carton.
Et après, mais s'il sort le carton, le VAR peut intervenir.
Mm-hmm. Il peut. Oui. Mais c'est la zone grise. C'est ce qu'ils appellent la zone grise, de l'interprétation.
Ouais,
mais de sa propre initiative, il ne peut pas lui dire je vais aller voir le VAR, la vidéo.
Moi, je reste quand même persuadé, c'était le sens de ma question à Monsieur Javot, la psychologie des arbitres, elle doit entrer en ligne de compte, et je pense que même s'il ne s'est pas posé deux fois la question au moment où il a sorti le jaune en début de match, au moment sur Gavory, il se dit peut-être, parce que ça a l'air vraiment...
J'ai vraiment le sentiment qu'il n'a pas osé.
C'est ça, je pense aussi. Donc, Gavory reste sur le terrain, Et quelques minutes plus tard, 71e minute, but du Jamaïcain Lawrence. Une superbe frappe, mais dont on se rendra compte qu'elle est déviée au départ. Et donc, elle ne laisse aucune chance à Arnaud Bodart. Elle avait l'air d'être bien partie quand même, hein, là, cette frappe.
Une belle frappe.
Belle frappe.
Oui, mais je pense qu'on... Et contrairement au début, à la première partie de saison, je ne dis pas qu'il y a un goal pour la... qui est de la faute de Bodart. Je dis juste qu'il...
Il fait...
Plus d'arrêts, il a plus fait les arrêts déterminants qu'il pouvait faire. Et ce deuxième goal, notamment, alors peut-être elle est déviée. Le premier, à mon avis, c'est un. Il peut l'avoir.
Il fait partie du groupe de joueurs qui est en tort sur ce but, ça c'est sûr et certain.
Le second, j'avais le sentiment aussi que s'il c'est pas choquant non plus. Donc, je dis pas que c'est une faute, je dis juste qu'il est plus peut-être
aussi décisif.
Aussi décisif, ouais. Ouais. Exactement, ouais, comme Blaise.
Ouais, comme le gardien de but d'un club que Blaise supporte. Je
peux
on en parlera un peu, mais
sauf que lui, il a 36 ans.
C'est ça, il a fait
Bodart,
sa carrière alors que Bodart, il est en début. Donc, on est à 0-2, mais le standard continue à pousser, va bien pousser et va marquer un très joli but d'Amala qui fait suite à un très bon travail aussi de Klaus qui joue son rôle de fixation dans l'axe. Il contrôle le ballon, il le décale à Amala sur le côté gauche qui fait un dribble et une frappe enroulée magnifique sur laquelle là on peut rien reprocher à Wallenreuther.
C'est vrai que c'est un but magnifique, mais c'est quand même super triste de se dire qu'on a l'impression que c'est quasi le seul joueur qui pouvait marquer en fait. Enfin, on a la sensation que c'est vraiment le seul qui allait pouvoir sortir le standard de ce. Enfin, du coup, il les a pas sortis, mais d'au moins marquer un but. Alors qu'il y a quand même quelques joueurs qui savent jouer au foot.
Mais c'est ma grande question. On en a parlé les semaines précédentes. Je dis pas que le standard. J'ai toujours dit que le standard n'a pas une équipe pour le titre, mais a quand même quelques belles petites individualités, fruit d'un équilibre entre. Joueurs qui techniques qui ont déjà fait leurs preuves et jeunes qui sont qu'on a plaisir à voir et qui sont des très belles découvertes. Mais je trouve, où ils se cachent, mais on ne voit pas. On ne voit pas d'éclair de génie chez ces joueurs. Et le seul, comme tu dis Blaise, le seul vraiment qui, lorsqu'il est sur le terrain, mais il n'a pas été ces derniers temps, sur qui on peut dire, il va y avoir une passe décisive, c'est Amala. Et honnêtement, ce goal, magnifique.
Ouais, c'est Amala et ça n'est pas Muleka qui, a pourtant l'occasion d'égaliser, il fait pourtant un geste extraordinaire. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu, il y a un long dégagement, les commentateurs disaient peut-être porté par le vent, il va tellement loin ce dégagement de Bodart qu'il arrive peut-être aux 20-25 mètres. Devant quelques mètres devant le début du rectangle et Muleka fait un contrôle magnifique et enchaîne avec une demi-volée qui passe juste au-dessus, mais vraiment le ballon il lui a collé au pied, il a vraiment réussi à le but du contrôle, quoi. On contrôle la balle pas juste pour freiner le ballon, mais pour mettre le ballon à l'endroit important.
C'est lui en position parfaite de frappe.
Exactement, il peut enchaîner magnifiquement, et malheureusement pour lui, c'est au-dessus, quelques instants après...
On ne peut pas lui en vouloir, l'action, il l'a fait, le dégagement, il l'a fait tout seul avec ce contrôle. Et elle part bien, elle part super bien, mais voilà, juste un peu au-dessus.
Et puis une minute après, il a encore une occasion, un ciseau qui est un petit peu faible. Bon là, on sentait que le standard jetait les dernières forces dans la bataille, et comme ça arrive souvent, ce qui devait arriver arriva sur un contre. Daouda finit le travail et le standard encaisse donc un troisième but. Victoire finale 1-3 d'Anderlecht. Il y a pas mal de choses à dire, du bon, du moins bon des deux côtés. Le moins bon côté Anderlecht, on en a parlé, c'est Wallenreuther qui est vraiment le maillon faible. Bon, selon moi. Amoudzou, bien, mais moi j'ai trouvé Nmecha, que je critique assez souvent, mais qui là a bien joué. Il a bien joué, c'est vraiment pas un buteur. C'est pour ça que quand il avait déclaré qu'il était lancé pour être le buteur de Manchester City, c'était un peu.
Mais on l'a déjà dit sur cette antenne, c'est pas un numéro 9, c'est peut-être un deuxième attaquant ou c'est un joueur d'aile, mais parce que même j'ai en souvenir, je sais plus quand, à un moment où il est sur le côté, il fait un passement de jambe, il accélère, il fait un centre en retrait. Et franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait en pointe, ce mec?
C'est sa surface, c'est sa zone.
Oui, il y en a personne d'autre. Ouais.
Donc côté Anderlecht, Vincent Compagny était content. Il l'a pas ramené trop en disant je peux pas vous dire qu'ils ont fait ce que je leur avais dit et donc on a gagné. Mais
Moi, je vais être honnête, en voyant la composition, je me suis dit mais il est très belle quoi.
Ouais.
Il est très belle.
Mais il a pas 90 minutes d'un classico dans les pattes là, mais, très belle.
Même 45.
Ouais. Mais... Si le joueur de foot était là pour faire 45 minutes,
bon. Ouais. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle des déclarations d'Mbaye. Ah ouais. Mbaye, il s'est plaint. Alors, il faut dire, Steve, je parle sous ton contrôle, qu'il, après avoir fait un 12 sur 12,
il vient faire un 3 sur 18,
c'est ça. Donc, forcément, on lui est un peu tombé dessus et il a mis un peu la faute sur ses joueurs. C'était. Moyennement élégant. Après, il faut bien qu'il a raison aussi de nommer les choses. Hein. Il prend ses responsabilités aussi en tant qu'entraîneur. Ce que j'apprécie, c'est qu'il dit ce qu'il va faire. Il l'a fait. Il a écarté un joueur parce que ses performances n'étaient pas assez bonnes. Là, il a dit qu'il y avait eu un problème de le matériel, comme il l'a dit. On imagine bien que lors du prochain match, il y aura du changement. Certains joueurs vont être mis de côté. On l'a déjà dit, ce championnat est fou. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec le même matériel, il ait fait 12 sur 12 et que maintenant il fasse 3 sur 18 ?
Juste un petit truc, quand il dit matériel, je pense qu'il ne s'adresse pas qu'aux joueurs, il s'adresse aussi à la direction qui lui met ce matériel à disposition, je pense.
Ouais, mais j'imagine pas qu'il soit en train de dire on n'a pas fait un bon match parce que les douches. Il manque des cônes ou les douches, ils ont des fuites. Enfin, j'imagine pas. Hein, mais peut-être.
C'est dur à dire. C'est quelqu'un d'intelligent. Alors, est-ce qu'il a voulu. Il y a une première interprétation, il a voulu se décharger en disant tout haut ce que beaucoup de gens pensent, tout bas ce qu'il a certainement déjà pensé, en disant clairement ce noyau est étriqué pour ses ambitions. Mmh. Et maintenant, c'est à la face du monde et il faut qu'on le reconnaisse. Ou alors. Il cherche des solutions et une solution c'est un électrochoc et puis piquer ses joueurs au vif. Il n'y a aucune des deux interprétations qui me convainc totalement parce que je ne crois pas au fait que les joueurs vont être piqués au vif parce qu'on leur dit qu'ils sont mauvais. Je ne crois pas que c'est une bonne solution, mais peut-être me trompais-je. Et d'un autre côté, je ne vois pas comment tactiquement quel était son intérêt à venir se plaindre là maintenant de la qualité du noyau, chose qu'il connaissait parfaitement en ayant signé. Hein. Il n'a eu aucune espèce de surprise.
Et il a peut-être même participé à la constitution de ce noyau du temps où il était l'assistant de.
Et tu as raison, Sam, c'est vrai. En plus, la plupart de ce noyau sont des joueurs qui ont été acquis sous Michel Preud'homme et lui en tant que T2 et sont des résultats de la volonté de cette équipe-là.
Moi, je me dis peut-être qu'il a. Il sait qu'il a perdu hier sa dernière opportunité de poursuivre la saison de manière gagnante, enfin en tout cas de se qualifier. Et c'est sans doute peut-être un message envoyé aux dirigeants, en le sens de dire, ben voilà, avec le matériel, enfin avec le noyau qu'on a, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que moi je peux faire et c'est pas très loin de ce que faisait Montagnier. Donc peut-être que c'est un message envoyé aux dirigeants pour leur dire... Trouvez-moi de meilleurs joueurs pour
c'est quand même risqué de faire ça parce que de base il arrive en intérim et donc les dirigeants du Standard pourraient très bien décider bon bah t'es pas content de ce que t'as, tu pars et parce qu'il a signé un contrat de 6 mois, il a aucune certitude. Moi je trouve ça hyper risqué, c'est vraiment se mettre sa direction à dos alors qu'il a vraiment pas besoin de ça quoi.
Et je me suis posé la question à la fin du match, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? C'est pas évident hein, quand vous êtes dans cette situation là. Pardon ?
Je ne m'attendais pas à ça.
Non, c'est certain, mais c'est vrai qu'on se dit, voilà, il a eu une très bonne communication quand ça se passait bien, puis il a protégé ses joueurs à la compagnie par la suite, puis il a dit, bon, on va jouer des finales. Là, clairement, il a perdu les finales, donc c'est terminé. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire ? Je me suis posé la question. Je ne m'attendais pas à ça, je ne sais pas s'il avait prévu une communication de crise.
Est-ce qu'il visait pas ? Moi, j'ai toujours Carcella en tête. Est-ce qu'il ne le visait pas un petit peu ? Il dit, voilà, peut-être les ambitions, c'est de jouer les play-offs 1. Et il dit, voilà, je t'ai donné les clés, parce qu'il était capitaine, il commence le match. Et ben, il a pas le niveau. Il a dit clairement, les joueurs n'ont pas le niveau de leurs ambitions.
C'est, ouais.
Est-ce que c'est pas, en creux, car c'est là qu'était...
J'avais plus le sentiment, comme disait Sam, que c'était à l'égard de la direction, ouais. Que c'était une volonté quasi de se disculper. Mm-hmm. Et là, ça m'étonne parce que c'est un garçon intelligent et quel était l'intérêt de ça? Quel était l'intérêt? Parce qu'on le savait, il le savait.
Bien sûr. Mais c'est pour ça que je pense que quand je disais, ça ne s'adressait pas que aux joueurs, je pense que ça s'adressait effectivement à l'encadrement aussi.
Et en plus, je pense, comme je disais dans l'analyse du match, je pense qu'avec le matériel, comme il le dit, mis à sa disposition, oui, c'est pas des infrastructures de niveau international, mais il y a moyen de bien mieux faire que ça.
Ouais.
Et c'est pas lui qui est en tort, hein. Mais je dis, il y a quelque chose dans ce matériel, entre guillemets, qui est exploitable.
Très honnêtement, André était au même niveau. Hein. À mieux jouer, mais je veux dire, si on parle de niveau du matériel.
Ouais, moi, je pense que c'est vraiment destiné aussi à ces joueurs, parce que vous avez raison en disant. Anderlecht était pas loin du niveau du Standard. Si ça avait tourné un petit peu mieux, ça aurait été pour le Standard. Et pourtant, Mbaye a été assez clair là-dessus en disant Anderlecht mérite sa victoire. Comme pour dire, voilà, de toute façon, avec les joueurs.
Il a demandé quelque chose au joueur qu'il n'a pas vu sur le terrain.
Peut-être. Écoutez, on va s'arrêter là pour la Pro League. On va quand même rappeler les autres résultats.
Genk. Charleroi qui sombre là.
Ah ouais, il sombre complètement. Il fallait que Genk fasse quelque chose parce que eux étaient dans une très mauvaise spirale, mais ils étaient toujours troisième. Ils l'ont emporté vendredi 1-2 à Charleroi. Ostende a gagné face à Malines 2-0. Le Cercle qui remonte. Brillamment en tout cas, ils remontent et ils vont sans doute se sauver. 2-0 contre Westland Beveren. Zulte Waregem, qui n'en finit pas de surprendre, est allé s'imposer à Courtrai 1-2. Et le Berscott hier recevait Moucron, ils ont fait 2-2. Également le dernier match qui se jouait hier, c'était Eupen qui l'a emporté à Saint-Tron 0-2. Sachez qu'en ce moment, le match a commencé il y a 6 minutes. OHL reçoit l'Antwerp et il y a 0-0.
En fait, Bruges, ils jouent plus là.
Exactement.
Ils ont arrêté de jouer.
Ils jouent en coupe jeudi contre le Standard.
Ouais, ouais, voilà. Mais en championnat, c'est fini. Quoi.
Et donc, Bruges, comme tu le disais, il joue plus depuis assez longtemps. Il a tout de même 15 points, enfin 14 à l'heure où on parle sur l'Antwerp, mais avec deux matchs de retard, puisque deux matchs, le premier a été reporté contre Charleroi en raison du terrain. Et le deuxième, c'est ce week-end, ils ont été contraints de reporter le match en raison du nombre important de joueurs touchés par le Covid. Et ça nous fait arriver au deuxième sujet. L'Europe, c'est fini pour les clubs belges. On rappelle qu'était toujours en lice le club Bruges, sur lequel personnellement, j'avais fondé beaucoup d'espoir, et l'Antwerp. Le club Bruges, comme l'a dit, ça a été dans la presse, c'était assez amusant. Le club Bruges n'a pas été battu par le Dynamo Kiev, mais par le FC Covid. Pensez donc, au début du match, étaient absents Lang, Van Aken, Denswil, Charles de Ketelaar. Bas Dost s'est blessé à la 58e minute. Alors, sur le match en lui-même, c'est vrai que ça doit être assez compliqué quand vous avez fait le bon résultat à l'extérieur, 1-1, vous êtes à domicile mais que vous avez beaucoup de joueurs absents, que vous n'êtes pas vraiment mis en danger très, très souvent au cours de ce match, mais que vous n'arrivez pas à mettre le but qui vous mettrait à l'abri. Bah, c'est souvent aussi, enfin souvent, ça, y a aussi beaucoup de fois où ça n'arrive pas, mais quand ça arrive, on le souligne et on s'en souvient. Et bien évidemment, à la 83e minute, sur une belle inspiration de Gerson Rodriguez pour Mikhailenko, celui-ci centre pour Boulaksi, qui coupe devant les défenseurs qui étaient un peu statiques. Et voilà comment le rêve d'une épopée européenne du club de Bruges s'envole. Donc c'est le Dynamo Kiev qui passe. C'est décevant parce que...
Super décevant, ouais. Quoi. On s'attendait vraiment à ce qu'il passe. Et, enfin, c'était quoi, on était à 75% sûr que ça allait passer contre Kiev. Ils sont faits, comme tu l'as rappelé, ils font le résultat parfait à l'aller.
Parfait.
Et puis, enfin, ouais. et ce match. Enfin, moi, j'ai en fait pendant tout le match, je l'ai regardé et je me disais, ils vont se faire avoir à un moment. C'était sûr parce qu'ils arrivaient à rien faire, ils arrivaient pas à marquer, ils arrivaient pas à faire de jeu. Et puis, vraiment, à un moment, je me suis dit, je vais partir parce que ils vont marquer Kiev, c'est sûr. Et voilà.
Mais ça, c'est vraiment le truc de supporter, quoi. On se dit. Si on marque pas, on va encaisser. Et puis quand ça arrive, ah, tu vois.
Je l'avais dit. Oui, toutes les fois où ça n'arrive pas. Mais c'est vrai que c'est tellement rageant quand ça arrive. Et puis, oui, ils avaient constitué Vous avez constitué une belle équipe pour ça. Ça doit être très difficile dans leur tête quand même maintenant, parce que vous avez 15 points d'avance. Mmh. Vous savez que vous allez sans doute, sur une jambe même, sans doute être champion.
Tu sais, Didier n'est pas là, tu dois pas...
Oui, non, mais je le pense quand même.
Ils ont la Croquis Cup quand même.
Ils ont la Croquis Cup, donc le doublé. Moi, si j'étais le standard, je m'inquiéterais parce que...
De toute façon. Ouais.
C'est peut-être le bon moment pour les prendre, allez savoir. De son côté, l'Antwerp s'est fait éliminer. Contre les Glasgow Rangers. Le match aller était difficile, ils avaient perdu 3-4 et là ils ont perdu 5-2.
Ça, on s'y attendait un peu plus.
Ouais.
Journée porte ouverte.
Ouais, je pense que là, malheureusement, le plus fort a gagné. Mais Bruges, ça reste vraiment... c'est dur à avaler. Ouais. Parce qu'on rejoue, j'ai l'impression qu'on joue 8 fois ce match, ils le perdent. Hein. Ouais, jamais ils le perdent.
Peut-être que Didier avait tort, que finalement ils auraient dû aller en Champions League.
Et ils l'auraient gagné, la Ligue des Champions.
Non mais j'y ai pensé, ils auraient joué une semaine avant, ils auraient peut-être pas eu tous ces malades du Covid.
mais c'est vraiment rageur. Quoi.
Ouais. Et c'est vrai que ça, voilà, on est le 1er mars et la saison est terminée. Didier, si tu nous écoutes, je pense à toi, je sais ce que c'est en tant que supporter du Paris Saint-Germain.
Il ne parle plus que de l'euro, il paraît maintenant.
Voilà. donc voilà, c'est terminé pour l'Europe, pour les clubs belges. Il y avait un club israélien, il a été éliminé aussi. C'était le Maccabi Tel Aviv battu par le Shakhtar Donetsk. À noter, très belle performance de l'attaquant israélien Eran Zahavi, qui a marqué tous les buts de son équipe. Ils ont perdu au match aller. Non, ils ont perdu 4-2 au match aller. Et je crois qu'ils menaient 2-0. Ils étaient qualifiés et ils ont pris un but dans les derniers instants. Ils ont donc été éliminés par l'Olympiakos, le PSV Eindhoven. Mais les 4 buts ont été marqués par Eran Zahavi, qui, rappelons-le, est venu de
Chine.
De Chine, exactement. Au mois d'octobre-novembre, il s'est plutôt bien adapté. Ça n'a pas été.
Donc on a le droit de marquer dans les dernières minutes.
Il paraît. C'est la mi-temps, repos pour les joueurs, détente pour les spectateurs, comme on disait. Je vous propose d'écouter un petit peu de musique. C'est une musique brésilienne, c'est Tim Maia et la chanson s'appelle Que Beleza. Timaya Kebeleza. Si vous avez aimé cette musique, si vous aimez ce genre de musique et que vous nous écoutez, c'est donc a priori que vous aimez le football, vous aimez le football et le Brésil, eh bien, je vais vous parler un instant de quelque chose.
Moi, j'aime bien quand tu le chantes.
Moment culture. Je vais vous parler du film Pelé, qui est sorti sur Netflix, qui est disponible depuis la semaine dernière. Alors, personnellement, je suis un grand fan du genre, le documentaire sportif. Mais je dois dire que faire un documentaire sportif sur Pelé, ça me paraissait un exercice un petit peu casse-gueule, si je puis me permettre. Dans la mesure où le monsieur a terminé sa carrière il y a 43 ans, qu'il y a peut-être 43 documentaires qui ont déjà été faits sur lui, et je me demandais ce qu'ils allaient bien pouvoir trouver à montrer. Surtout, j'avais peur aussi qu'il soit un petit peu, il passe pour un ringard à côté des productions des autres documentaires, de ceux faits récemment, soit sur Maradona, soit sur Messi, Ronaldo, soit dans d'autres sports comme pour Michael Jordan, où la production était quand même assez exceptionnelle et grandiose. Eh bien, je dois dire que je n'ai pas été déçu. Je vous conseille vivement ce documentaire qui a choisi comme point de vue de s'intéresser uniquement aux 12 années que Pelé a passé sous le maillot de la Seleção, donc de 58 à 1970. Et les réalisateurs ont pris également un point de vue qui était celui de rapprocher et de lier l'histoire personnelle de ce gamin qui a 17 ans à peine donne la Coupe du Monde à son pays à l'histoire, la grande histoire du Brésil, et on se rend compte à quel point ça n'est pas un mythe, que Pelé a été une source de joie et de fierté nationale, un point assez peu compréhensible, enfin si on le comprend en regardant le documentaire, mais en tout cas c'est vraiment un chouette documentaire. Les réalisateurs n'ont pas du tout été complaisants. C'est pas un objet à la gloire de Pelé. Pour vous dire, la première fois qu'on le voit à l'écran, puisque le film est également composé d'interviews de Pelé aujourd'hui, c'est un homme de 80 ans et sa première apparition à l'écran, c'est derrière un déambulateur. Donc je pense que quand vous êtes le roi Pelé, que vous avez été le plus grand joueur de tous les temps et que vous l'êtes sans doute encore, le fait d'accepter de se montrer comme ça, ça veut dire que vous êtes prêt à vous ouvrir et à parler. Puis une autre scène assez étonnante, enfin pas étonnante mais émouvante, c'est qu'on le voit en fauteuil roulant. On voit en fauteuil roulant au milieu de ses anciens coéquipiers du Santos, et malgré tout, il plaisante, il rigole avec eux, notamment de ce fauteuil roulant. Et c'est assez représentatif du point de vue que les réalisateurs ont adopté, c'est-à-dire ne pas être complaisant, ne pas non plus essayer de détruire Pelé, mais ne pas être complaisant parce qu'il y a des points sur lesquels l'histoire de Pelé reste, non pas trouble, mais enfin...
Pas brillante,
je ne sais pas si... Bon, il faut dire que la dictature militaire a pris le pouvoir en 64 et que, comme le dit lui-même Pelé pendant le film, on lui demande « qu'est-ce que ça a changé pour vous ?» et il dit « rien ». Effectivement, rien du tout n'a changé pour lui entre la démocratie et la dictature. Et certains au Brésil lui ont reproché de ne pas avoir pris parti, de ne pas s'être levé pour s'opposer à la dictature. On lui oppose un Mohamed Ali qui, en son temps et sur un autre sujet, avait décidé de ne pas aller au Vietnam. Mais comme le remarque justement, je trouve, un journaliste dans ce documentaire, Mohamed Ali, il risquait quelques temps en prison dans un pays démocratique. Pelé, à 25 ans, il ne savait pas ce qu'il risquait s'il se levait contre la dictature. Et donc, c'est assez facile de le juger, mais ce n'est pas facile d'être à sa place. On se rend compte aussi comme ça n'est pas facile d'être à sa place. Et enfin, pour les amateurs de football, parce que pour l'instant, je n'ai pas parlé beaucoup de football, on se rend compte que ce type était un génie, vraiment un génie. C'est-à-dire que vous, comme moi, j'imagine que vous avez entendu le nom de Pelé depuis toujours, que vous, comme moi, vous n'avez pas jamais vu de match en direct, vous avez vu des petites images, et donc on reste avec lui en tête comme étant... un petit peu la figure fondatrice, mais qu'on n'a pas assez vu, et donc on accepte ce que nous disent les anciens, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Mais là, les images sont particulièrement soignées, il y a eu un beau travail sur les archives, et on se rend compte de gestes techniques fous qu'il peut faire, et je parle de ça il y a plus de 50 ans. Donc oui, il fait les joueurs actuels font les choses plus rapidement, mais en tout cas, Pelé, lui, les faisait déjà à l'époque, ce que les autres ne faisaient pas. Donc vraiment, je vous conseille de le regarder, ça dure 1h48. La partie intéressante aussi, c'est sur la Coupe du Monde 70, où on se rend compte, parce que quand on ne connaît pas forcément l'histoire de Pelé en profondeur, et j'avoue que j'étais plus ignorant sur ce point-là, c'est qu'il était quand même en fin de... Il était pas en fin de carrière, mais ça faisait 12 ans qu'il était au top niveau. Il ne voulait plus faire la Coupe du Monde. Et malgré tout, on l'a poussé. Et puis, il a pris ça comme un challenge personnel. Et il a su être, s'il n'était plus le plus rapide, le plus puissant, il était le plus intelligent, le plus malin sur le terrain. Et on voit des choses vraiment remarquables à voir. Oui, Henri.
Moi, j'ai une question. On n'est pas de la même génération, Blaise et moi. Mais est-ce que ça évoque quoi, Pelé, pour toi?
Écoute, c'est un peu comme ce que disait Samuel, c'est que, et j'y pensais quand Samuel l'a dit, c'est vraiment quelque chose de l'imaginaire populaire, tu vois. C'est comme quand on parle, par exemple, de quand on voit quelqu'un qui roule vite dans la rue, on va dire c'est Fangio, tu vois.
C'est
pour moi, c'est sûrement, enfin, je veux dire, j'ai jamais vu jouer, mais ça doit être le meilleur joueur de tous les temps. D'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a gonflé ses stats, et de plus en plus, tu vois. Et donc, il a peut-être une image qui a été un peu écorné, et puis aussi apparemment il était quand même très avide d'argent, enfin c'est certaines choses, je pense, qu'on a découvert petit à petit, tu vois. Ça n'enlève en rien que c'était sûrement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais j'ai l'impression qu'on a de plus en plus travaillé sur son image et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas aussi belles que ce qu'on pensait. Et tout à son, enfin, je veux dire, ça ne me regarde pas, mais moi, si tu me demandes le meilleur joueur de tous les temps, je vais dire Zidane, je vais pas dire Pelé, tu vois.
Non, après, de toute façon, le débat est lancé. C'est juste, moi, je trouve, le débat est pas lancé. Je te donne la parole juste après, Steve. L'idée, le savoir qui est le meilleur, pas le meilleur, de toute façon, je trouve, j'imagine que. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est Rai et point final. Parce que c'était ça, peut-être, toi, c'est Chiffo, parce que t'étais.
Moi, ce qu'il y a, c'est que.
Mais juste, je voulais juste finir. Je pense que c'est important de regarder ça quand, justement, quand on est des gens comme nous, et peut-être comme toi aussi, enfin, qu'on l'a pas vu jouer. Et quand on regarde les actions, on peut juste se dire, imaginons que ce soit fait par un joueur d'aujourd'hui. Alors, il faut essayer de se mettre dans le contexte. Le ballon, par exemple, semble beaucoup plus lourd, beaucoup moins facile à manier.
Les chaussures, les pelouses, tout.
Et vous le voyez faire des choses incroyables. C'est-à-dire que si on avait des images de Ronaldinho en train de faire deux coups du sombrero de suite, suivi d'une reprise de volée que le gardien de but n'arrive pas à capter, on dirait c'est fabuleux. On a ces images-là. Alors effectivement, c'est moins flashy qu'aujourd'hui, c'est réalisé différemment, mais simplement se concentrer sur le foot, c'est beau. Oui, Steve.
Oui, je trouve que c'est toujours extrêmement difficile de comparer et de vouloir trouver le meilleur, le plus grand. C'est juste, c'est le même sport, mais c'est en même temps, c'est plus le même sport. C'est totalement une autre époque. Qu'il ait gonflé ses stats ou non, moi j'avais pas entendu ça à vide d'argent. Je pense que c'est rigolo, évidemment, quand on sait ce qu'il gagnait comparé à ce que gagnent aujourd'hui les footballeurs.
Le genre gagne.
Voilà, on adore faire des espèces de comparaisons, mais finalement, c'est en fonction de sa propre génération qu'on sait retrouver ses propres héros. Et Pelé était juste le héros d'une époque.
Absolument.
Et comme d'autres sont les héros d'une autre époque. Et en fonction du moment, dans l'époque dans laquelle on vit, nous tous autour de la table, on aura, comme tu l'as parfaitement dit, on a tous entendu le roi Pelé, un des plus grands, le plus grand, mais on l'a jamais vu jouer 90 minutes.
Non, c'est ça.
Je disais avide d'argent, c'était pas méchant forcément, c'est que c'est un des premiers à l'avoir fait, et j'avais entendu
c'est le premier millionnaire du foot
à avoir demandé des sous, c'est le premier qui a signé au New York Cosmos parce que évidemment il allait gagner beaucoup d'argent là-bas, et tout à son honneur. Mais aussi j'avais appris quelque chose, c'est que on l'a forcé à jouer plein de matchs parce que il ramenait les gens dans les stades, et notamment avec le Brésil où on l'a forcé à aller faire des tournées en Asie, des tournées en Europe, des tournées aux États-Unis. Parce que la fédération brésilienne savait que ce gars-là ramenait des foules dans les stades. Et donc, je pense qu'aussi, on l'a un peu,
pas lui, mais les gens ont tiré sur sa corde à lui en disant, en l'utilisant un maximum parce qu'on savait l'impact qu'il avait dans les stades et même en dehors des stades.
Il y a une anecdote très amusante d'ailleurs qui est rapportée dans le film. Il est avec certains de ses anciens coéquipiers de Santos et il y a un autre, Dorval, je crois, il s'appelle. Il a à peu près le même gabarit que lui. C'est un joueur noir comme lui. Et il raconte qu'ils sont je ne sais où en Europe et ils doivent faire un match et Pelé est blessé. Mais il est blessé, donc il ne va pas jouer et ils ont un stratagème. Et ils disent, écoute, Dorval, tu vas prendre le numéro 10, tu vas te mettre sur le terrain. Et puis eux, de toute façon, ils ne voient pas, ils vont voir un noir de loin, ils ne sauront pas si c'est moi ou pas. C'est Pelé qui dit ça. Et puis à la mi-temps, tout le monde avait compris que c'était pas lui. Et Dorval en question dit, et d'ailleurs je me souviens, tu étais blessé, mais t'es rentré en jeu parce que les gens étaient venus pour te voir. Et on se rend compte vraiment de l'importance qu'il avait. Et surtout, là où tu disais, chacun, il y a des héros générationnels, on se rend compte que c'est le héros du Brésil, mais pas uniquement le héros sportif. C'est-à-dire qu'il y a une chose assez intéressante qui est dite, le Brésil a toujours considéré qu'ils étaient inférieurs aux autres. Et puis ça a été entretenu par la défaite, le désastre du Maracanã, où ils ont perdu le match qui leur aurait donné la Coupe du Monde en 50. Et ça a été pire que tout. Et à ce moment-là, ils ont développé un complexe, je ne saurais plus le dire, je l'ai dit ce matin, mais je ne saurais plus le dire en portugais, du bâtard, du chien bâtard, celui qui est moins beau que les chiens de race. Et Pelé, par sa simple présence et le fait qu'il ait donné la victoire en 58, a fait que les Brésiliens sont sortis de cet état d'esprit instantanément. Et ça a continué, c'est le moment où il y a eu la prospérité aussi au Brésil. Et donc, beaucoup disaient, la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 60, c'est la période la plus heureuse de l'histoire du Brésil et elle correspond avec Pelé.
Moi, je voulais dire quelque chose, que je suis de 66, donc quand j'ai commencé à m'intéresser au foot...
Comme Cantona.
Voilà. Pas la même carrière. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au foot, il était encore présent, Pelé, donc c'est devenu un étalon. C'est-à-dire, les jours après sont venus, pour moi en tout cas, qui était élevé là-dedans, en comparaison de... C'est-à-dire que c'était Pelé. D'ailleurs, la réaction de Blaise est intéressante parce qu'il dit qu'il a gonflé ses statistiques. On ne parlait pas de statistiques à l'époque.
Bien sûr.
Donc c'est, déjà, rien que ça, c'est une approche générationnelle du talent ou de l'impact, par exemple, social, sociétal, je ne sais pas comment on peut dire, sur les gens. Il faisait rêver les gens. On s'en fout qu'il ait joué autant de matchs, qu'il ait marqué autant de goals, etc. C'était... On veut aller voir Pelé, on veut voir le phénomène. Il a commencé à 16 ans en Coupe du Monde. C'était plutôt dans l'émotion. On ne parlait pas de statistiques. En tout cas, moi, je n'ai pas grandi en disant quelles sont les stats, comme maintenant, on en est aux data.
C'est devenu la NBA, le foot, maintenant. C'est ça. Tout pour les stats.
Pelé, écoutez, il a peut-être aussi joué là-dedans. Enfin, en tout cas, il a une vie assez...
Je ne savais pas qu'on lui avait reproché son manque d'implication politique à un moment sensible. Ouais, là, je l'ai appris.
C'est Jair Zinho, donc un de ses, qui reste un de ses bons copains, mais qui dit qu'il aurait pu avoir un pouvoir.
Oui, c'est dur, évidemment, hein, parce qu'on le sait que dans les sports... Il y a tout type de personnalité.
Exactement.
On ne peut pas demander, évidemment, à tout le monde de s'impliquer. Et c'est vrai qu'on a tendance à glorifier, je trouve, à très juste titre, des symboles. Des gens qui profitent de leur notoriété pour mettre en avant un combat qu'ils considèrent comme juste. Et on aime les retenir parce que c'est des personnalités qui transcendent le sport. Mais c'est pas le profil de toutes les personnalités. Messi ne le fera jamais.
C'est ça. Et justement, quand on parle de ça dans le film, on parle de Mohamed Ali puisque c'est la même période et que c'est un autre. Il dit oui, mais lui.
C'est le contre-exemple.
C'est le contre-exemple. Et le journaliste qui répond à ça dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a une seule chose. Je peux dire une seule chose seulement. Bravo Mohamed Ali. Mais ça ne veut pas dire que Pelé. Il faut le déconsidérer parce qu'il n'a pas fait ça.
Pelé, c'est un dieu du football à 16 ans. Je ne sais pas s'il a une éducation, une culture politique.
C'est ce qu'il disait aussi. Je ne m'intéressais pas à ça. Et puis moi, j'imagine pas ce que ça peut être, mais c'est les quatre Beatles en une seule personne. et j'imagine que.
Et le Brésil des années 50.
Ouais, 60, ça doit être difficile de prendre parti. Il a été beaucoup sollicité, mais il a refusé d'y prendre part, donc c'est déjà ça. En revanche, il disait oui, c'est vrai que j'étais. Bon, je voyais le président dictateur, mais comme les Brésiliens, les joueurs brésiliens, tous les autres joueurs brésiliens le voyaient de temps en temps. Bon, écoutez, en tout cas, ça ne devra pas être une tâche qui obscurcira sa carrière.
Rapidement, juste, après... tu as évoqué le fait que c'était les quatre Beatles en même temps. Il y a un documentaire sur YouTube qui s'appelle Once in a Lifetime qui raconte l'histoire des New York Cosmos, en fait, qui est vraiment un truc génial. Et là, tu te rends compte que vraiment, c'est les quatre Beatles parce que, et t'as l'impression qu'il arrive même pas à le gérer, quoi. C'est juste, les gens sont fans de lui et lui, il en a pas grand chose à faire, quoi. C'est...
Ouais, et c'est vrai que ce documentaire que j'adore, qui est vraiment super, parle de la période Cosmos, la période post, quand il est en fin de carrière, où il fait encore des choses formidables, et puis tout est très amusant dans ce doc.
Vraiment génial.
Là, c'est sur sa meilleure période, et puis les images sont assez belles, il y a de la bonne musique. Donc,
comme toujours, quand tu nous fais un docu sportif, on a envie d'une chose en sortant, c'est de le regarder.
Bah, écoutez, si je vous ai amené à ça, bah, j'en suis heureux. On a passé pas mal de temps dessus, je pense que c'est passé quelques minutes, mais c'est très bien. On va quand même avancer sur le reste de l'Europe. On commence par la Premier League, où Manchester City a gagné et a consolidé son fauteuil de leader avec un très bon Kevin De Bruyne qui était de retour. Il a donné un assist à Ruben Dias pour l'ouverture du score.
Tiens.
Ah bon?
quel passe.
Donc bon, écoutez,
on le dit à chaque fois, mais
c'est au-dessus de ce qu'on peut imaginer en qualité de passe. Défaite surprise concédée par Leicester à domicile face à Arsenal 1-3, et pourtant Youri Tielemans, sans doute à mon avis le meilleur Belge depuis le début de l'année avec Romelu, et pourtant il avait ouvert le score dès la 6e minute, mais Arsenal est capable de tout.
Éliminé en Coupe d'Europe en semaine.
Ouais, et éliminé en Coupe d'Europe Leicester.
Étonnant.
Ouais, ils pourront se concentrer sur le, ils vont avoir une belle, un beau du boulot pour décrocher
rester dans les places de Champions League.
Ils sont troisième. Et alors, on va arriver sur le match dont je comptais pas nécessairement parler beaucoup et qui va faire très plaisir à Blaise. C'est la victoire 4-0 de Tottenham contre Burnley. Vous allez me dire, ça n'est que Burnley. Mais il n'empêche, il y a un joueur qui a fait exploser les compteurs. On s'attendait à tout le monde sauf à lui. Alors, en tout cas, peut-être pas hier, mais c'est Gareth Bale.
Ça fait longtemps qu'on s'attend plus à lui.
Voilà. Et Gareth Bale, sachez qu'il est quand même, il a été titulaire donc au sein d'une attaque assez impressionnante qui comptait donc Bale, Kane, Son, soutenu par Lucas Moura. Son a donné deux passes et les trois autres ont marqué. Bale lui a mis deux buts et un assist, et sachez qu'il est impliqué sur sept buts lors des quatre derniers matchs. Avant de poser une question, je voudrais vous faire écouter ce qu'en a dit le meilleur ami de Blaise, non pas Zlatan, l'autre, en conférence de presse d'après match.
I'd like to say things that are not really true, but there is not one single manager in the world.
Il n'y a pas un seul manager au monde qui ne fait pas jouer Gareth Bale s'il est en bonne condition physique. Pas un seul.
But now he's better than,
actuellement,
he's better than ever.
Il est meilleur que jamais, et c'est pas juste parce qu'il a marqué deux buts. C'est fondamentalement ses performances physiques. Il a très bien joué, sa condition est très bonne, et je suis content pour l'équipe, car il l'a aidé à gagner, et c'est la chose la plus importante. Donc ma question, c'est est-ce que avec Pardon ?
La question, c'est quel est cet accent ?
Quel est cet accent ? Avez-vous reconnu le manager qui se fait virer à la troisième année qui parlait ? La question que je me pose, est-ce que Gareth Bale peut être le facteur X de Tottenham pour cette fin de saison ? Rappelons, juste, Tottenham, on les avait laissés un peu comme Liverpool, ils avaient commencé à sombrer un peu avant Liverpool. Ils en sont à 39, ils ont 39 points, ils sont 8e, ils ont un match de moins, un match de retard. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Est-ce que quelqu'un veut... Je rappelle, il a marqué 7 buts lors des 4 derniers... sur 7 buts lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues.
Blaise... C'est toujours la même chose avec Gareth Bale. Gareth Bale peut, mais est-ce que Gareth Bale veut, ça, on ne sait pas. Peut-être que la semaine prochaine, il va trouver un nouveau terrain de golf et il va se dire, bon, je vais aller faire les 10 trous et puis voilà, c'est fini. Quoi. Enfin,
il paraît qu'il a des propositions du côté de la Floride pour aller golfer.
Ça m'étonnerait
pas. Avec un certain Donald. Oui.
Ça m'étonnerait pas.
Moi, je crois que... y a un certain David Beckham qui recherche des grands joueurs pour son club floridien.
C'est ça. Alors là, il va faire les deux d'un coup. Il va.
Moi, je crois qu'il nous écoute depuis quelques semaines et il a été titillé.
Sûrement. Mais là où je pense que Mourinho a raison sur une chose, c'est que si Gareth Bale se sent bien, si Gareth veut, Gareth peut, et s'il a une bonne condition physique actuellement.
Ouais, mais pour Tottenham, ça va être difficile parce qu'ils ont tellement, ils ont fait un, vraiment, on était impressionnés. Ils ont fait un tellement bon parcours et c'est à partir du Boxing Day ça a été une vraie descente.
Et la blessure de Kane aussi, il leur a fait très
bien. Ouais, ouais, mais il gagnait plus rien.
Mais c'est-à-dire qu'on avait parlé de Gareth Bale comme étant venant compléter ce noyau et pouvant être une solution. Il l'a pas été au moment où il aurait fallu qu'il le soit. Et c'est vrai que quand Kane se blesse, alors c'est pas un avant-centre.
Là, ils sont 40e, ils sont 8e, 9e.
Là, ils sont 8e. Ils sont coincés entre Aston Villa et Everton avec un match de moins.
Et ils sont à 4 points du 5e, quelque chose comme ça.
Et ils sont, c'est ça, à 5 points de Chelsea qui est 5e, mais ils ont un match.
Ils peuvent remonter sur Chelsea, mais passer la cinquième et quatrième page, je pense que ça va être très très compliqué. Aston Villa, ça va peut-être le faire, parce que Aston Villa, ils sont un peu dans le dur là en ce moment.
Ouais.
Leicester aussi, mais Leicester, ils sont plus loin quand même.
C'est West Ham qui est quatrième, mais il reste quand même, il leur reste 13 matchs à jouer. Ils n'ont pas de play-off, ils en sont à la 26e journée.
Honnêtement, leur coup de mou a été un peu trop long. Un peu trop long. Ça, c'était pas le Boxing Day le mois de janvier, c'était jusque maintenant, donc il faudrait vraiment un coup d'éclat formidable, un coup finalement retrouver leur niveau du début de saison avec la confiance, la fraîcheur pour arriver à remonter au moins jusqu'à la 5e place.
Hein. Ouais. Écoutez, on va suivre ça avec attention. Sachez que Alderweireld était titulaire, il a fait un bon match comme l'ensemble de l'équipe. Il jouait donc à domicile Burnley qui était 15e. Dans le reste des résultats, Liverpool est allé gagner à Sheffield 0-2. Reste en position, hein, mais quelle position ? Eh ben, ils sont 6e, malheureusement. Pour l'instant, c'est hors de l'Europe. Ouais, hein, même
c'est compliqué. Hein.
C'est descendu fort. Et enfin, le choc au sommet entre deux équipes tellement...
Quel choc
Entre deux équipes qui nous ravissent toutes les semaines. Chelsea jouait Manchester United. Chelsea a dominé, aurait pu l'emporter. Et puis ça s'est fini en 0-0.
Vraiment, c'était horrible.
C'était
comme
difficile.
Match.
C'était pas le meilleur week-end de football en Angleterre. Au classement, on l'a dit, City caracole en tête, ils ont le même nombre de matchs que leurs poursuivants directs, ils ont 12 points d'avance déjà sur United. Leicester est donc 3e à 1 point de United, 49 points. West Ham est 4e avec 45 points et donc complète le quatuor qui irait en Champions League si la saison se terminait maintenant. Chelsea 5e avec 44 points. Et ensuite viennent Liverpool, Everton qui joue ce soir, Tottenham, Aston Villa et Arsenal. Il reste 12 matchs comme je disais, on va avoir une fin de saison intéressante je pense. Et on va vérifier où en est d'ailleurs le match Everton si quelqu'un...
1-0 pour Everton devant Southampton.
Et voilà.
Et 1-0 pour AHL devant l'Inter.
2-0.
Ça remonte. 2-0. On passe maintenant à l'autre championnat qui nous intéresse particulièrement ici en Belgique, la Serie A. La Serie A où les étoiles des Diables Rouges brillent plus qu'ailleurs. En tout cas, une, c'est sûr, c'est Big Rome, Romelu Lukaku. Le match a démarré il y a très peu de temps. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit notre commentateur anglais.
But it's Inter on the attack early on here with Romelu Lukaku. Lautaro Martinez to his left. Oh, but he didn't need it. What a start. Inside a minute. It's the in-form. It's the devastating Romelu Lukaku who gives Inter the lead at San Siro. He is unstoppable.
Il est unstoppable. Effectivement, 18e but. Si vous n'avez pas bien compris l'anglais, on était... à la 32e seconde, il a la possibilité de la donner sur sa gauche, comme le dit le commentateur. Il n'en fait rien, il n'a pas besoin. Une belle frappe qui va se loger dans le petit filet du gardien de but de la Genoa. Il a donc donné le ton à son équipe. Il a réalisé un match énorme. Il a donné aussi un assist à Darmian. Il est aussi à l'origine du troisième but de Sanchez, puisqu'il fait une tête qui est repoussée par le gardien. Et puis Sanchez marque après. L'Inter a fait une très très grosse impression, pour, à mon avis. Vous êtes d'accord dans l'ensemble?
Moi je pense, enfin je l'avais déjà dit la semaine passée, mais pense qu'ils vont aller chercher le titre sans trop de problèmes. Et je l'avais aussi dit la semaine passée, mais je pense que ce sera le titre de Lukaku.
Ouais. Moi, la question que qui est dans ma tête, mais que je n'ai jamais encore osé exprimer, je ne vais peut-être pas le faire cette semaine, depuis le début, c'est où est-ce qu'il va s'arrêter ? Parce qu'il est, il est unstoppable, comme il a dit, mais il est trop en forme. Il ne peut pas être... C'est-à-dire, il n'a pas eu un coup de mou. Il n'a pas eu un coup de mou cette saison. Je ne connais pas de joueurs qui n'ont pas de coup de mou.
Non.
Et là, on est au mois de mars. Hein. On est au mois de mars. Depuis le mois d'août, il colle des goals à tous les matchs.
Surtout avec son jeu.
Je ne sais pas quand il va avoir ce coup de mou, mais il ne faut pas que ce soit trop tard.
Il n'a pas de Coupe d'Europe depuis très tôt dans la saison. Hein. L'Inter est sorti quatrième de la Champions League. Donc il a quand même une coupe qui joue pas. Donc bon, c'est vrai qu'il joue tous les matchs de Serie A et de Coupe d'Italie, mais...
Il joue avec un jeu. Il a un jeu physique.
Bien sûr.
Oui, mais donc c'est logique d'avoir un petit coup de mou à un moment.
Et alors, corrigez-moi si je me trompe, parce que l'année dernière est un petit peu chaotique dans ma tête, il est arrivé au Final 8 de l'Europa League. Ils ont perdu en finale.
C'est ça.
Donc oui, il a repris.
Et c'est lui qui marque quasi tous les buts du Final 8 d'Europa League. Enfin, c'est...
Dans les deux côtés.
Ouais. C'est vrai qu'il a porté son équipe sur le dos. Et c'est vrai, comme tu le dis, Steve, ça fait 8 mois maintenant, peut-être
depuis août.
Qu'il est à fond, et mi-juin il y a un événement. Donc faudrait soit qu'il ait le petit coup de mou tout de suite, soit qu'il attende juillet,
soit qu'il ne l'ait jamais,
soit qu'il ne l'ait plus jamais.
On commence à donner la confiance à Eriksen, je trouve qu'il...
Ouais, Eriksen est bien revenu et
il apporte quelque chose vraiment.
Ouais, et puis pour lui avoir un joueur comme Lukaku devant, enfin pour n'importe qui avoir un joueur comme Lukaku, pour Kevin De Bruyne avoir Lukaku, on en salive à l'avance. Un autre Belge qui a joué il a un assist, mais il n'a pas fait un très grand match, et même son assist n'est pas très spectaculaire. C'est Alexis Salemakers avec l'AC Milan qui se rendait à l'AS Roma. Il a donné un assist à Rebic, mais je pense que c'est Rebic qui s'est fabriqué un peu le but tout seul. Il a poussé le ballon du bout du pied, Salemakers. Il jouait alors qu'il est un peu dans le dur en ce moment.
J'ai trouvé meilleur que la semaine passée.
Il est déjà meilleur, c'est vrai. Il y a un événement, j'ai regardé le résultat.
Dans ce match-là, rapidement, le match Milan-Roma, il y a un joueur dont personne ne parle, et c'est le premier Français à dépasser 10 buts. C'est le premier Français à dépasser 10 buts depuis Michel Platini en Serie A.
C'est le premier milieu de terrain.
Oui, ok, que... ouais, pardon. Ouais, ouais.
Mais c'est un exploit.
Et ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit à l'Euro dans le groupe, moi. Jordan Vertu, pardon.
Jordan Vertu, ouais.
Papin n'a pas marqué 10 goals.
Si, mais il était attaquant. C'est un milieu de terrain. Zidane, par exemple, n'a pas marqué 10 buts en une saison. Mais effectivement, et ce que tu dis n'est pas faux, j'ai vu sur des forums des gens qui disaient, par exemple, Nzonzi, qui ne sert plus à rien, qui était champion du monde, il pourrait largement laisser sa place à Jordan Veretout, qui, effectivement, a mis 10 buts.
Il est 6, il est 8
il est, C'est un 8-10
ouais,
plutôt.
8-10. Il est monté au jeu, il a marqué. Donc, à surveiller Veretout. Il y a une chose qui m'a étonné. Il y a eu un pénalty pour l'AC Milan, et c'est pas ton meilleur ami Blaise qui est allé le tirer. Il l'a laissé à quelqu'un d'autre, alors que la faute n'était pas sur lui. Et je me suis dit, il devait avoir peut-être un peu les chocottes. Je ne sais pas s'il a les chocottes, lui, mais il devait savoir qu'il avait peut-être des chances de le louper. Zlatan a préféré laisser tirer quelqu'un d'autre. Ça prouve qu'il est aussi humain. ça t'arrache là. Hein, c'est dur de dire ça. Non, mais quand on sait qu'il est troisième meilleur buteur de la Serie A avec 14 buts,
c'est vrai.
Gouinfré.
Lui, c'est le genre d'objectif qu'il aime bien accomplir, d'être meilleur buteur de la Ligue. Donc, écoute, il a des sentiments.
on le critique, moi il me fait toujours marrer. Il a eu une belle sortie à propos de Lukaku, parce qu'on les a montés un peu l'un contre l'autre. Et il a dit, à propos de Lukaku, il a dit, écoute, il a 27 ans, il a gagné une fois le championnat de Belgique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ?
Par contre, il s'est fait recadrer par LeBron James cette semaine. Là, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais LeBron lui a dit, reste dans ton foot.
Zlatan, il le cherche, il aime bien, il le crée de toutes pièces, quoi.
C'est ça.
Il cherche le Lukaku, tout simplement, parce qu'il aime bien avoir, il aime qu'on parle de lui, et il aime avoir un bouc émissaire sur lequel taper.
Il n'y a pas de mauvaise publicité pour lui, il n'y a que la publicité.
Il faut parler de lui.
Voilà. Troisième match, et celui qui va donner encore un peu plus d'espoir, peut-être, au diable, c'était Naples contre Benevento dans le derby, un derby du sud de l'Italie. Et on a eu le retour de Dries Mertens qui a fait aussi un excellent match. Il marque un but pour son retour, son premier but de l'année 2021. Quel plaisir de le revoir aussi, surtout quand on sait les difficultés offensives, enfin une difficulté, on pense à toi Eden, qui se pose à l'équipe de Belgique, voir De Bruyne revenir, voir Mertens revenir, que des bonnes nouvelles.
C'est le printemps.
C'est le printemps.
C'est le temps que tout le monde éclot avant le feu d'artifice de l'été.
Voilà,
le goût qu'il marque n'est pas fou non plus. Hein.
Non, mais pff, il n'avait pas joué depuis décembre.
Il est gourmand, rien. Maintenant qu'il a gagné le Classico, sky is the limit, quoi. Ouais.
je veux t'entendre dire ça si c'est le seul but qu'il marque en finale du championnat d'Europe.
Non, je
crois qu'il n'est pas terrible.
C'est merveilleux qu'il soit revenu sur le terrain.
En parlant des Diables, rapidement aussi, on l'avait déjà dit plus tôt dans l'année, mais hier, Jason Denayer a fait un très bon match encore avec Lyon et c'est pas la première fois. Donc moi, je pense qu'il va être titulaire à l'Euro et le voir évoluer chaque semaine en Ligue 1, ça fait vraiment plaisir.
Et il y a un dernier mot sur ce gardien de but qui a fait son 8e clean sheet en Allemagne.
Kuhn Castells. Ouais.
Voilà.
Kuhn Castells.
Il paraît qu'on le voit pas beaucoup, mais il paraît qu'il cartonne.
Oui, ouais. Voilà. Huitième. Huitième.
Le diable s'est blessé.
Voilà, c'était On joue la prolongation. On a été ravis de passer cette heure et demie avec vous. On espère que vous aussi. Et on se retrouve dès la semaine prochaine.